bien, c'est le moment. Dans cette maison des Fagnes, le JT du soir est un rendez-vous immuable. Impossible de le manquer, surtout pas aujourd'hui. Michel, un octogénaire loin de faire son âge, se dépêche de s'installer devant son poste de télévision. Technicien sur les plateaux télé dès les années 60, l'homme a vu passer des stars, des Belges, des internationales et des exceptionnels. De celles qui viennent toujours saluer celles et ceux qui bossent dans l'ombre. Il peut les compter sur les doigts d'une main. Dans ce lot restreint, il n'y en a qu'une qu'il a émue au point d'en devenir l'un de ses admirateurs. C'est Annie Cordy. La chanteuse, comédienne et actrice est décédée la semaine dernière. Pour Michel, le coup a été rude. Tant cette disparition est venue lui rappeler l'implacable marche du temps qui emporte tout et tout le monde. Enfoncé dans son fauteuil, Michel ne peut déjà plus retenir ses larmes. Nous sommes le 12 septembre 2020. Il est 19h et c'est l'heure H de mon histoire.
Bonsoir, c'est sous un soleil radieux qu'Annie Cordy s'en est allée, entourée de ses proches, de ses amis et de ses fans. Une cérémonie de funérailles à l'image de l'artiste, simple et joyeuse. Annie Cordy aimait la fête et les chansons reprises en chœur. Et c'est dans cette atmosphère qu'un dernier hommage lui a été rendu dans la ville de Cannes.
À Cannes, étrangement, l'atmosphère est aussi joyeuse que possible. La cérémonie, organisée en plein air alors que la pandémie de Covid-19 continue de frapper le monde entier, se tient sous un temps magnifique. Ils sont des centaines assis, debout, à avoir fait le déplacement. La foule est massée, émue, à l'approche du cercueil de l'artiste. Tout semble avoir été organisé comme elle le voulait, pense Michel, sans rien dire. La cérémonie s'amorce avec une prise de parole attendue par tout le monde. Celle de Mimi, la nièce de la chanteuse. Un visage bien connu, puisqu'elle vivait avec son aînée à Valouris, dans le sud de la France. C'est elle qui a appelé les pompiers alors que sa tante venait de faire un malaise cardiaque qui lui fut fatal. Ses mots justes, profonds, sont empreints d'une grande émotion. Tu te trompes quand tu dis « ce sont les chansons qui resteront dans la mémoire collective et on se rappellera les personnages de fiction que j'ai servis, pas de moi ». Pas de l'interprète. Tu te trompes. Nous sommes tous là. Nous ne t'oublierons pas. Et nous sommes très nombreux. Dans l'assemblée, on retrouve des visages connus. Ici, Dave, là-bas, Liane Folly. Les larmes coulent sous les masques. Entre chaque prise de parole, la voix de l'artiste résonne, accompagnée du chant des oiseaux. Les frères Taloche, des proches de la disparue, y vont de leur pointe d'humour. On a reçu tellement de messages qu'on en a totalisé 127 219. Et je n'ai promis de lire que la moitié. C'est la chanson « L'artiste », sa préférée, qui résonne dans les travées au moment où son cercueil est conduit vers sa dernière demeure. Voilà une cérémonie à son image, ce que la présentatrice du JT, Julie Morel, ne manque pas de souligner.
Et beaucoup de ceux qui étaient présents aux funérailles décrivent Annie Cordy comme une deuxième maman ou une deuxième mamie, elle qui était si généreuse avec ses amis et son public.
C'est certainement ce qu'il faut retenir de la chanteuse. Elle était une figure populaire, connue et reconnue pour son authenticité et sa générosité, pour sa bienveillance aussi. Tout cela n'est pas que le fruit de son immense carrière. C'est avant tout le reflet d'une personnalité qui sera restée lumineuse et simple pendant près de 70 ans de carrière. Les réactions des présents recueillies par les équipes de la RTBF ne s'y trompent pas. Certaines transpercent le cœur, notamment celle d'Hervé Villard.
J'ai passé 50 ans de ma vie à monter sur scène avec elle. Et donc, c'est la reine est morte, vive la reine.
Dave, lui, va encore plus loin.
Annie, pour moi, est une membre de ma famille depuis bientôt 50 ans. Et quand on perd un membre de sa famille, on est là, c'est tout.
Partout, on ressent la même émotion, les mêmes sentiments. Quelle plus belle preuve pour appuyer le fait qu'Annie Cordy, avant d'être une artiste formidable, était un être humain unique, extraordinaire. Notre histoire commence le 1er mai 1950 à Paris. En cette période de renouveau économique, la ville lumière semble ne jamais dormir. Il y a un peu moins de 5 ans, les chars du général Leclerc, accompagnés d'un certain Charles de Gaulle, libéraient la capitale française du joug nazi. Depuis lors, c'est la fête. Tout le temps. Ou presque. Nini Cordy est un petit bout de femme qui tente de se faire un nom au pied de la Dame de Fer en tant que meneuse de revue. Un poste artistique on ne peut plus délicat, unique en son genre. C'est bien simple. Une meneuse de revue, c'est la vedette d'un show de music-hall ou de cabaret. Pour celles qui veulent percer le plafond séparant l'anonymat de la célébrité, Paris est tout indiqué. Cordy n'est pas du genre à rechercher l'ivresse de la célébrité. Ce qui la motive par-dessus tout, c'est de pouvoir devenir artiste. Et déjà, de plaire à celles et ceux qui se déplacent pour la voir, sans ombrage, sans faux-semblant. En plein cœur de la capitale, la salle du Lido est en effervescence. C'est un lieu qui compte, une fois la nuit tombée sur la belle parisienne. Le directeur artistique de l'institution, en constant déplacement, n'est pas revenu seul de sa tournée à Bruxelles. Il y a rencontré Nini Cordy, qui l'a subjuguée sur scène. La jeune femme de 21 ans n'a pas été facile à convaincre, mais elle a fini par accepter de quitter sa terre natale. Dans les coulisses, elle fredonne et ne semble pas altérée par le trac. Elle s'apprête pourtant à conquérir le Lido pour la toute première fois, une institution. Cette légèreté, bien évidemment, est une façade. La souriante et nouvelle meneuse de revue n'emmène pas large, et on peut le comprendre. C'est pourtant une incroyable forme de professionnalisme qui prend déjà le dessus chez elle avant d'entrer sur scène. Le directeur artistique de l'établissement ne s'est pas trompé. Dès sa première représentation, Cordy, qu'on ne va pas tarder à surnommer Nini la chance, crève l'écran. En fusion, l'Assemblée lui accorde une standing ovation. Cette salle du Lido, emblématique, va lui permettre de mettre les deux pieds là où il a toujours voulu être, sur scène. D'un point de vue plus personnel, l'institution parisienne revêt une importance des plus particulières. Moins d'un an après sa prise de poste, un soir, la jeune femme va croiser le regard d'un homme dans la salle. Son cœur chavire, son esprit aussi. C'est un véritable coup de foudre qui se joue sous la lumière blafarde des projecteurs. Celui qu'on appelle Bruno est déjà marié et père de famille. Mais qu'importe, il va devenir l'amour de la vie de Nini, et plus encore, son impresario. Une relation exceptionnelle sur laquelle Annie se livre lors d'une interview datant de 1983.
Dans le cas de votre mari, j'ai lu quelque part qu'on disait... Que Bruno, je me permets de l'appeler comme ça aussi.
C'est François-Henri Bruno.
Voilà.
Il y a trois prénoms, c'est facile.
Mais vous l'appelez Bruno.
Moi, je l'appelle Bruno.
Parfois papa.
Ah oui, papa, oui.
Ça le vexe pas.
Ah, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout.
Mais on disait dans un article que c'était votre cuirasse, votre absolument. Carapace, votre château fort.
Oui, c'est l'épaule sur laquelle on peut pleurer de temps en temps et dire on en a assez ou ça va pas, ou des problèmes. C'est pas seulement celui, la carapace, qui s'occupe de le côté administratif qui me casse les pieds, tout ce qui est contrat. Moi, on peut pas s'occuper de tout, c'est pas possible. Surtout en faisant mon métier comme je le fais, je ne peux pas m'occuper de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sur une scène, c'est de travailler à une pièce, plein de choses. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi ce que je viens de dire. Quand il y a des moments où la machine a l'air d'avoir des ratés ou des problèmes de cœur, familiaux, tout ça, on a l'épaule. C'est très important.
Alors qu'elle quitte le Lido au bout d'une petite année de présence, les chemins qui s'ouvrent sous les pieds de la Belge sont ceux qui mènent vers la gloire. En très peu de temps, l'artiste va devenir un symbole et s'ériger comme une véritable star de la culture populaire. L'enfance de Leonia Giuliania Corman ne pouvait en rien laisser présager ce fulgurant début de carrière sous les lumières parisiennes. À La Queue, la famille de la petite Léonia est des plus modestes. Dernière née d'une fratrie composée de deux aînés, elle grandit dans un quartier populaire, non loin du domaine royal. Choyée par des parents qui travaillent dur, elle se voit inculquer très tôt le sens des responsabilités et l'importance de ne jamais rien céder à la paresse. Son père est menuisier, notamment pour les artistes peintres. Et sa mère tient une petite épicerie. Pas de place pour l'oisiveté, donc. Mais une jeunesse qu'elle chérit, comme elle l'exprime des années plus tard, en revenant dans l'atelier de son père.
J'ai une jeunesse très rose, parce que j'ai des parents merveilleux. Un frère fantastique et une sœur aussi, d'ailleurs. Et j'ai passé une jeunesse très, très agréable. Et je me souviens qu'étant toute petite fille, eh bien, quand maman avait trop de travail, elle venait me mettre là. Il y avait un tas de copeaux, là. Elle m'installait là et je regardais papa travailler. Et puis quand j'ai grandi un petit peu, j'ai aidé papa. Ma grande joie, c'était de venir mettre les petites clés dans les châssis. Voilà, ça se passait comme ça.
Sa mère porte la culotte, le tout grâce à un caractère très fort. Le père de famille, plus tranquille, apaise les choses quand il le faut. La petite fille hérite de l'énergie de sa mère. À l'école, elle est bien souvent le trublion de sa classe. Ce n'est du goût ni de ses encadrants, ni des siens, qui se décident à l'inscrire dans un cours de danse. Le but, lui permettre de s'étoffer, elle qui est petite et frêle. La danse va aussi lui permettre de dépenser ce surplus d'énergie, on ne peut plus débordant. Lors d'une visite dans son ancienne école, Annie Cordy évoque avec émotion cette période de la vie.
Bien sûr, il y avait aussi la danse. La danse a pris une très très grande place au début de mon enfance. Et puis ça m'a beaucoup beaucoup aidée dans ma carrière artistique parce que ça m'a permis de me mouvoir en scène, de marcher normalement. Et ça, je dois tout ça à deux femmes extraordinaires. Elles s'appellent Louise Ambrosini et Léo Ambrosini. Voilà mes deux professeurs, je faisais partie des Ambrosini.
Mais tu te souviens?
Oui.
Nous avons passé de bons moments ensemble.
Oh, tu oui, je m'en souviens.
Toi, tu penses au coup de canne.
Oui. Mais parce qu'il faut vous dire que je faisais de la barre, on faisait du classique.
Oui.
J'ai une formation classique et Léo nous faisait marcher à la baguette, c'est-à-dire à la canne. Quand ça ne marchait pas, bam, les coups sur les cuisses. Louise était au piano, la 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 la. Et puis je rentrais à la maison, maman me disait, fais voir tes cuisses. Alors je montre mes cuisses et j'avais pas bien travaillé, j'étais marbrée, voilà.
Il faut dire qu'elle avait la peau très fine.
Sa première expérience de la scène, l'adolescente la connaît à Bruxelles, où elle s'inscrit à des concours de chant, un talent qu'elle s'est découvert très tôt également. L'un de ses premiers contrats lui permet de se présenter devant les clients du restaurant du célèbre hôtel Métropole. La foule est majoritairement composée de soldats américains en garnison, qui apprécient ses reprises des standards de leur pays. Déjà, elle se démarque. L'artiste va garder un lien unique avec cet établissement qu'il a lancé puisqu'elle en fera son « chez elle » à chaque retour au pays. Elle devient meneuse de revue dans la capitale du royaume belge avant d'être débauchée par les équipes du Lido. Le début de l'aventure. Tout va très vite. La popularité d'Annie explose en un rien de temps. Elle accompagne la caravane du Tour de France, signe un contrat dans la maison de disques Pathé Marconi. Et puis, elle monte sur scène dans l'opérette La Route fleurie, avec un certain Bourvil. Une aventure qui lui a laissé de joyeux souvenirs.
Dans La Route fleurie, on faisait un numéro Dédé et moi, Bourvil et moi. J'imitais Piaf. C'était l'époque où elle chantait Padam, 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 Daradiral. Tu vois, bon, je sais pas si tu souviens, enfin, certains publics se souviendra. Et alors, on avait fait un pastiche, Raymond Vinci avait écrit un pastiche, et ça s'appelait Daga, Daga, Dagada, soin de soin, cet air qui me suit dans les coins. Daga, Daga, enfin, tu vois. Et Dédé, enfin, Bourville, était censé me mettre en scène. Alors moi je faisais ça, il me disait non c'est pas bon, il faut faire ça comme ça et comme ça. Enfin, tu vois un peu, ça durait ce numéro qui avait commencé à 3 minutes, finissait par faire 12 minutes, tu vois, parce qu'on avait trouvé des trucs extraordinaires. Et un jour en plus, voilà, dis pas que j'ai un trou de mémoire. Impossible de dire ce que j'avais à dire. Et alors, c'est ahuri de Dédé, il a mis le public dans la confidence. Il disait, voyez comme elle est là, Elle sait plus ce qu'elle doit dire. Elle se rappelle plus. Elle a un trou. Elle a un trou, mais je vous dis. Et ça a duré. Et moi, j'étais écroulée.
Ce n'est pourtant que le début du chemin. Annie s'impose partout où elle met les pieds. Dans les années 50, beaucoup de ses titres font un tabac. Bonbon caramel, fleur de papillon, Léon. Oh, la liste est longue. En 1955, sa popularité lui permet de passer pour la toute première fois sur la scène de l'Olympia. Elle remporte ses premiers prix, ses premiers moments de gloire. Le grand écran lui fait les yeux doux. Cordy s'impose face à la caméra comme une incroyable actrice capable déjà de jouer toutes sortes de rôles, des plus légers aux plus dramatiques. Elle joue pour Guitry dans « Si Versailles m'était compté » dès 1953. L'année suivante, elle se lie avec De Funès et retrouve Bourvil dans « Poisson d'avril », ce qui participe à l'asseoir de manière cinématographique. Et avec le film « Le chanteur de Mexico », sa notoriété devient internationale pour son rôle aux côtés de Luis Mariano. Donc c'est bien simple. Sa fulgurance artistique est totalement inédite pour l'époque. Du jour au lendemain, ou presque, elle est partout. S'impose dans tous les styles et dans toutes les disciplines. Déjà, Cordy est une artiste formidable. Ce décollage se matérialise par de très grands moments. En 1956, elle chante lors des fiançailles de Régnier de Monaco et de Grace Kelly. Elle, la gamine de Bruxelles. La même année, au Plaza à New York, elle donne une représentation sublime après laquelle elle croise une certaine Édith Piaf. Un passage new-yorkais dont elle et Bruno se rappelleront toujours pour des raisons plus cocasses.
Rencontre d'Édith Piaf.
Oui, ça c'est à New York. Ça. C'était pendant que je passais au Plaza, au Pershing Room, au Plaza Hotel à New York. C'était en... Ça devait être sur 50... C'était entre 56 et 57 puisque j'ai passé la Noël 56 à New York et Bruno en a gardé un très mauvais souvenir, c'est pour ça que j'en parle, parce que le soir du réveillon, on est allé manger du caviar, mais ils n'avaient pas la grande licence pour de l'alcool ou d'adoca, et Bruno a dû manger du caviar avec du Coca-Cola. Eh ben, il n'a pas été heureux, hein, mon loulou, oh, il n'était pas heureux du tout.
Le talent inné de la Belge subjugue les Américains, qui ne demandent qu'une chose, qu'elle reste aux États-Unis. L'intéressé résume la suite avec son humour habituel. On m'a demandé de faire une comédie musicale à Broadway qui s'appelait « Fille en talons hauts ». Mon mari a dit « Non, on mange trop mal ici ». Indépendante, Cordy aurait-elle tenté sa chance au pays de l'oncle Sam ? Qui sait ? L'aventure américaine terminée, l'artiste se remet au travail dans une perspective de rigueur renouvelée, intensifiée. D'ailleurs, elle a beau le présenter comme son mari, ce n'est qu'en 1958 qu'elle épouse Bruno. Le couple s'installe dans l'Essonne, dans un ancien pavillon de chasse magnifique ayant appartenu à Madame de Récamier. Ce premier lieu de vie va bientôt être cédé et les amoureux se dirigeront vers la Roseraie, où ils vivront pendant près de 30 ans. Ça paraît dingue, mais il n'aura fallu qu'une petite décennie à peine pour qu'Annie Cordy sorte de l'ombre et prenne sa place dans la lumière. Une ascension fulgurante, folle, qui n'est en rien due au hasard, tant son professionnalisme et sa manière de mener sa carrière lui permettent de s'ouvrir des portes. Le futur de l'artiste s'annonce radieux. Voilà que viennent les 60s, la période de tous les possibles. 161, salade de fruits, Banjo Boy et bien d'autres singles ont transformé Annie Cordy en une véritable star. La fin des années 50 a été une période de succès. Sur le terrain de la chanson d'abord, ou depuis 1955 et Fleur de Papillon, un album studio sort tous les ans. Le dernier en date, Plein Feu sur Annie Cordy, vient de faire un nouveau carton. Au cinéma, la Belge s'est retrouvée à l'affiche 9 fois en 6 ans. Avec Cigarette, Whisky et Petite Pépée de Maurice Régamet et Tête Folle de Robert Vernet, elle a passé un cap. Avec Bruno, elle vit le grand amour. Bon, bref, il semblerait que l'artiste n'ait plus rien à prouver à personne. Et pourtant, 1961 s'annonce comme un tournant. Le monde change. Et les goûts des gens avec. En cette frénésie galopante du début des 60s, un nouveau genre musical s'impose, le rock'n'roll. Exit les artistes d'après-guerre, place à Hallyday et ses Santiago. Pas de quoi rassurer le monde du musical et des opérettes, dont Annie Cordy est la star incontestée. Partout dans les rues de la capitale, on dit que la Gaîté Lyrique, l'une des salles les plus célèbres de Paris, est sur le point de faire faillite. Que faire ? Que faire si la variété et l'opérette ne sont plus rentables ? Cordy ne se pose pas la question. Elle, elle fait ce qu'elle aime, en point c'est tout. Elle est bien la seule à ne pas s'inquiéter. Son grand ami, Luis Mariano, est à la recherche d'un nouveau souffle. Son dernier passage à l'Olympia n'a pas été extraordinaire et voilà que les réalisateurs ne l'appellent plus pour de nouveaux projets. Lorsqu'il se retrouve sur la scène de la Gaîté Lyrique, les artistes ont donc de quoi se faire un sang d'encre. Mais dans les travées, il y a un homme qui croit encore en eux. Francis Lopez vient de monter un nouveau projet d'opérette, Visa pour l'amour. 2 actes, 18 tableaux et plus encore. 2 stars pour l'incarner. Cordy est conquise et Mariano ne cache plus son impatience. Si ce projet foire, sa carrière risque bien de prendre un coup dont il ne pourra pas se relever. Alors, pas de choix, faut s'y mettre. Heureusement pour tout le monde, dès les premières répétitions, la magie opère entre les amis. Très vite, on comprend que le projet a tout pour plaire dans l'opinion. Donc c'est bien simple.